Bonjour à tous, soyez les bienvenus, que vous soyez de la communauté protestante à la cité ou de l'église évangélique ou d'ailleurs, que vous soyez vraiment accueillis au nom de Jésus-Christ ce matin. Le culte sera animé par des strubins, une fois de plus, mais ce n'est pas ma femme, c'est June Strubin, une homonyme qui habite Mérin et qui est de la paroisse, et donc moi-même. Et nous aurons la chance d'avoir Michel Félix comme prédicateur, qui est prédicateur au CEPOM, donc à la cité. Alors, comment vous accueillir? Je vais vous donner quelques pistes de réflexion qui vous guideront aussi dans le sujet d'aujourd'hui. Parfois, on a des prières intenses, des prières très très fortes, dans notre vie de chrétien, on supplie le Seigneur de répondre à des prières, on exige parfois, des fois on attend longtemps, on attend des années, des fois on se décourage. Et de temps en temps, le Seigneur exauce, peut-être souvent pour certains, par hasard, des fois on se dit c'est par hasard qu'on a eu un exaucement. Mais qui d'entre nous n'a jamais prié pour une chose précise, pour un être aimé, pour une guérison, pour une conversion, pour un rétablissement d'une relation, pour la possibilité, il n'y a plus de micro là, pour la possibilité d'avoir un enfant. Donc on va se pencher ce matin sur une dame dans l'Ancien Testament, qui est une dame qui était très spirituelle et qui priait et qui insistait au temple pour avoir un enfant. Est-ce qu'elle va l'obtenir, cet enfant? Est-ce que ce sera le cas ou est-ce que l'enfant ne viendra pas? Est-ce que le Seigneur va répondre à sa prière? Elle a tant prié qu'elle a été prise pour quelqu'un qui avait bu de l'agneau, c'est-à-dire du vin, tellement elle priait de manière intense dans le temple. Avec ces indices, vous avez peut-être imaginé qui c'était, enfin vous verrez tout à l'heure. Alors je vous invite à prier avant de commencer ce culte. Seigneur, merci pour cette occasion de nous retrouver ensemble, de t'offrir un petit moment de culte, un moment d'adoration, un moment où nous sommes devant toi, sous ton regard. Merci pour ta présence au milieu de nous, que tu bénisses chacun, que chacun puisse te redécouvrir, puisse se réjouir en toi ce matin. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Je vais juste partager un texte, parce que j'aime bien les textes bibliques, un texte qui se trouve dans les psaumes, le 95, les premiers versets. « Venez crier au Seigneur, notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur, présentons-nous devant lui, chantons avec toute notre reconnaissance, acclamons-le en musique, car le Seigneur est le grand Dieu, il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre, qu'il a façonné. Entrons, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Voilà, nous allons céder la place à la louange. Vous avez vu un petit écriteau là, je ne sais pas si vous avez compris ce que c'était, qui est projeté. On inaugure aujourd'hui l'installation d'un système d'écoute pour ceux qui ont des appareils. Alors ceux qui en ont, vous pouvez peut-être voir si ça marche. Tout ce qui sera dit au micro sera communiqué dans vos oreilles par ce nouveau système qui est installé. Vous pourrez faire vos commentaires aux sonoristes à la fin si jamais. Voilà, alors je cède la parole au groupe et je les remercie déjà.
Alors j'ai beaucoup travaillé pour réfléchir pour ces chants. Je me suis fié au texte que Daniel a lu. Et qu'on puisse être justement reconnaissant de qui il est. Qu'on puisse s'approcher de notre papa ce matin, tel qu'on est, et être réjoui, reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour qui il est pour nous. Alors qu'on puisse commencer par ce chant « Béni soit le Seigneur ». Béni soit le Seigneur, son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur, pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Oui, merci Seigneur, parce que tu es notre joie. Tu es notre joie ce matin, mais tu es notre joie tous les jours, malgré nos difficultés, nos petits combats de chaque jour. Mais moi, j'ai envie de dire que tu es ma joie ce matin, parce que tu es toujours présent. Merci parce que tu es le bon berger et tu prends soin de nous.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra nous séparer de son amour, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie. Qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il va me chercher et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chantera son amour tous les jours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Je se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 les yeux se tournent vers toi. se tourne vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en sa présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
J'ai envie de t'accueillir ce matin, papa. Sois le bienvenu parmi nous. Qu'on puisse vraiment ce matin te rencontrer. Je vous invite à exprimer aussi ce que vous avez dans le cœur ce matin. Que ce soit à haute voix ou dans votre intérieur. Mais prenez ce petit temps ce matin de le rencontrer. crois qu'on n'est pas là pour rien ce matin. Parce que c'est vrai que quand j'entends le, ouais, ce qu'on va pouvoir vivre ce matin avec toi, papa, ça a des, j'ai plein de questions au niveau aussi des prières. De, ouais, comment tu me réponds, comment. Ouais, je m'attends à toi ce matin, que tu puisses répondre peut-être à certaines de mes questions, mes prières. J'ai envie d'être là ce matin devant toi. Qu'on puisse être à, que je puisse être à ton écoute. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavés, mon Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Nous allons lire, partager les textes qui serviront de base à la prédication de Michel.
Alors, nous lirons dans 1 Samuel, chapitre 1, versets de 1 à 20. À Rana, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite. Il s'appelait Elkana. Il avait épousé deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rana au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les deux fils d'Eli, Oni et Pinhas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait bien et beaucoup. Et le Seigneur ne lui était pas accordé d'enfant, ne lui avait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsqu'Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne s'était mise à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Eli était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. » Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne pria longtemps. Eli l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Eli pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, lui dit. » Ah, pardon. J'ai sauté une page. Alors, non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. Alors Élie déclara, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » « Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. » Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt le lendemain matin, Elkana et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur. Puis ils retournèrent chez eux à Rana. Elkana s'unit à sa femme, Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. »
Lorsqu'elle l'eut sevré, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Élie. Anne dit à Élie, « Te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur ? Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. » Voici l'enfant que je demandais dans ma prière. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. Et toute la famille se prosterna devant le Seigneur.
Quant au jeune Samuel, vêtu de pagne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénissait Elkana et sa femme et disait à Elkana, que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné. Ensuite, ils retournèrent chez eux. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Celle-ci mit au monde encore 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur.
Bonjour. Je suis heureux d'être ici avec vous ce matin, même si ce n'est pas sans une certaine émotion, comme certains peuvent le comprendre. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier encore. Seigneur, merci pour ta parole. Par elle, tu nous parles. Et tu veux nous transformer par elle également. Seigneur, que par ton esprit, tu viennes en chacun de nous et que tu nous permettes de comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, nous te le demandons dans le nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Ainsi, c'est l'avant-dernier culte en commun de cet été. Et nous avons rencontré un certain nombre de femmes. Ces femmes, source de vie, force de vie. Celles que je vous invite à rencontrer ce matin, on en a déjà parlé un peu, Mais elle n'est pas très connue au fond. On connaît beaucoup mieux son fils, Samuel. La mère de Samuel s'appelait donc Anne. Et là, j'aimerais juste expliquer un tout petit peu le titre que j'ai donné à ce message que je vous apporte ce matin. Une des traductions qu'on peut donner au mot, au prénom Anne est « gracieuse ». Alors, Anne est gracieuse. On pourrait dire aussi charmante, élégante, aimable, souriante. On dit parfois que le nom d'une personne reflète sa personnalité. J'aime donc à penser que la mère de Samuel était une personne gracieuse, effectivement. Mais au début de notre récit, Anne n'est pas au mieux de sa forme. Elle ne manifeste pas la grâce et le charme que son nom laisserait sous-entendre. Non. Anne est une femme frustrée. Elle n'est pas mère. Et voici certainement pas mal d'années que son mari l'a épousée, mais aucun enfant n'est venu. Et dans la société, à l'époque de Anne, être mère était très important. Une femme sans enfant était considérée comme une femme inaccomplie. Son mari, Elkana, qui se rend chaque année au sanctuaire, au temple, à Silo, avec toute sa famille, à Silo, c'est un peu au nord de Jérusalem, même si Jérusalem à l'époque ne faisait pas partie d'Israël. Donc Elkana y vient pour offrir un sacrifice de reconnaissance, comme cela était prescrit par la loi, au moins une fois par année. Et quand on offrait un sacrifice de reconnaissance, l'animal offert n'était pas brûlé entièrement. Seules certaines parties l'étaient, le reste était réparti entre la personne qui offre le sacrifice et les prêtres qui officiaient. Elkana et sa famille font donc la fête. Ils viennent pour remercier le Seigneur. Ils mangent la viande offerte, ils boivent du vin près du sanctuaire, comme c'était la coutume. Pénina, l'autre femme d'Elkana, se sait moins aimée que Anne. Mais elle a un avantage, elle a des enfants. Ça fait toute la différence. Et puisqu'elle a des enfants, elle méprise Anne. Anne, cette femme qui n'est pas capable de donner un enfant à son mari. Elle le fait bien savoir. Elle ne se lasse pas d'insister et de le répéter. Et tout spécialement à l'occasion de leur venue au temple. Ainsi, Anne est méprisée. Ce mépris la rend triste. Elle n'est pas cette femme gracieuse. Lorsqu'on fait la fête, une personne triste, ça fait tache dans le cercle. Anne ne se sent pas à sa place. Pourtant, son mari fait tout ce qui est possible pour la consoler. Il la comble de bien, lui renouvelle son amour, lui dit qu'elle compte vraiment à ses yeux. Mais rien n'y fait. Elle ne supporte plus la compagnie des personnes en train de faire la fête. Elle a de l'amertume en elle. Alors, elle s'en va. Mais elle ne va pas bien loin. Non. Elle va simplement dans le sanctuaire. Elle va s'adresser à son Dieu. Et devant lui, elle pleure et elle prie. Ce n'était pas vraiment la place qu'on attendait d'une femme que de prier dans le temple. C'était le mari, le père, le fils aîné qui était responsable des relations de la famille avec Dieu, mais certainement pas la femme. Mais Anne passe outre les usages et elle entre en prière. Elle s'adresse au Seigneur de l'univers, celui qui tient toutes choses entre ses mains, et elle répand son cœur devant lui. Elle dit le fond de sa pensée, elle n'a pas honte de lui exposer sa détresse. Et elle passe un marché avec lui. Seigneur, donne-moi un fils, et il te sera consacré toute la vie, toute sa vie. Devant sa stérilité, Anne aurait pu abandonner et se laisser aller. Mais ce n'est pas son genre. Anne est une femme qui n'abandonne pas. Elle se bat pour vivre sa féminité en étant accomplie. Et elle sait qu'elle n'y peut pas par elle-même, mais elle sait aussi vers qui se tourner. Elle s'adresse donc à Dieu. Et elle est là. Et elle prie. À l'époque, on priait debout et surtout à haute voix. Mais Anne prie au fond d'elle-même. Et elle dit, le prêtre va la remballer. Va cuver ton vin ailleurs. Mais Anne ne se laisse pas faire. Non, je ne suis pas ivre. Je prie au fond de moi. Je m'adresse à ce Dieu qu'on adore ici, parce que ma prière, cette prière que je veux lui adresser, est une prière qui me concerne dans toute ma vie. Anne est une battante. Elle ne s'arrête pas. Elle est tenace. Rien ne la retient. Elle s'est fixé un but et, en dépit de tous les usages, elle fera tout pour l'atteindre. Il faut rendre hommage à Élie, ici, au prêtre, d'avoir rapidement saisi ce qui se passe. Anne vit quelque chose d'important dans sa prière, dans ses pleurs, dans son humiliation devant le Seigneur. Aussi, après avoir écouté les explications qu'elle donne, il donne à Anne sa bénédiction et appelle à l'exaucement de sa prière. Et pour moi, je pense que c'est ça le centre névralgique de tout ce récit. C'est que Anne comprend, au travers des paroles d'Élie, que le Seigneur lui-même lui parle et lui fait la promesse de son intervention. Je pense qu'elle ressent en elle-même cette intervention souveraine du Seigneur. La bénédiction prononcée par Élie change totalement les choses. Quelque chose se transforme en elle. Elle n'est plus la même femme. Elle va reprendre sa place à table. Elle devient, ou redevient, celle que son nom suggère. Elle change de visage. Elle devient ce qu'elle est. Anne, la gracieuse. Anne qui a reçu une grâce du Seigneur. c'est ce à quoi nous sommes appelés, à devenir ce que nous sommes. Une expression qui peut sembler contradictoire. Et pourtant, je pense qu'elle est profondément enracinée dans la foi chrétienne. Devenir ce que nous sommes. Avoir le courage d'être ce que nous sommes. Ce n'est pas toujours évident. Nous sommes des graciés, comme Anne l'a été. Le Seigneur exauce nos prières comme il l'a exaucé pour Anne. Nous pouvons être véritablement ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce courage qu'Anne a retrouvé. Et ainsi, elle va vivre, devenir ce qu'elle a demandé. Elle va devenir la mère d'un fils, Samuel, ce nom qui signifie « demander à Dieu ». Et Anne continue d'avancer. Elle devient enceinte, accouche d'un fils, mais elle sait que ce fils n'est pas pour elle. Samuel est consacré au Seigneur, elle l'a promis. Samuel, ce fils qu'elle a demandé, et que d'une certaine manière, le Seigneur lui a aussi demandé. Mais ce fils est encore tout petit, et elle va passer pas mal de temps avec elle, avec lui, entre, et il va se créer une relation particulière, je crois, entre Samuel et sa mère. Le temps que Anne, que Samuel soit sevré et que Anne et qu'il n'ait plus besoin de sa mère. Anne a certainement marqué profondément Samuel dans la relation qu'ils ont eue. Samuel, devenu plus grand, Anne l'accompagne à Silo. Et après avoir adoré, après avoir sacrifié le taureau qu'ils ont amené, Samuel sera remis, confié à Élie, et sera ainsi au service du Seigneur, selon la promesse faite par Anne. Oui, Anne est cohérente avec elle-même. Elle n'a qu'une parole. Elle s'y tient. Elle n'hésite pas. Elle accomplit ce qu'elle a promis. Et je dois dire que j'ai beaucoup de peine à imaginer ce qui a dû se passer dans cette femme qui a décidé de se séparer de son fils. Tout jeune encore, il a peut-être 4 ans, Anne le laisse aller. Elle le dit au moment de le confier, je veux le prêter, le donner, le consacrer au Seigneur pour toute sa vie. Il sera toujours mon fils, mais il est aussi au Seigneur, il est à son service. Dans sa cohérence, Anne est une femme droite et responsable. Et au moment de le quitter, de laisser Samuel à Élie, elle va prononcer un psaume que nous n'avons pas lu, mais vous pouvez le faire, c'est le début du chapitre 2 de 1 Samuel, qui indique sa confiance, la reconnaissance, le respect qu'elle a envers le Seigneur. Alors bien sûr, Anne va continuer à le voir, Samuel, de temps à autre, au moins une fois par année. Elle lui coudra des vêtements. Elle est et reste sa mère, même à distance. Et pour Anne, la vie va continuer sous la bénédiction de Dieu, parce que Élie va encore prononcer une bénédiction prophétique pour Anne et pour Elkana. Et Anne deviendra la mère de 3 fils et de 2 filles. Et puis, d'une certaine manière, l'exaucement ultime de la prière de Anne adviendra tout au long de la vie de Samuel, parce qu'il manifestera une consécration de tous les instants. Il sera un des grands prophètes d'Israël, suivant l'exemple de sa mère remarquable. Alors essayons de reprendre ces points. Anne vit sa vie de femme sans compromis. Elle accepte ce qu'elle vit, mais fait son maximum pour changer ce qui peut l'être. Elle ne prend pas son parti d'une vie de femme pas entièrement accomplie. Par contre, elle refuse le même prix que lui adresse Pénina, l'autre femme de son mari. C'est une battante qui ne prend pas son parti de ce qu'elle vit comme une injustice. Elle se décide à agir. Anne est une femme libre au milieu du carcan de la société de son temps. Elle entre dans le temple et prie sans l'aide de son mari. Anne est réceptive à ce qu'Élie lui dit. Elle comprend qu'il lui parle de la part du Seigneur. Elle sent que le Seigneur agit au plus profond d'elle-même. Ainsi, en devenant la mère de Samuel, Anne montre qu'elle est une femme dont la vie témoigne de la réalité d'un Dieu qui s'occupe des hommes et des femmes en son temps et dans tous les temps. Elle a conscience, je crois, que sa vie trouve un sens parce qu'elle est vécue dans une perspective de la venue du Christ. Par la grâce du Seigneur, Anne devient une femme qui reflète la réalité de son nom. Elle est maintenant une femme gracieuse. Elle a le courage de devenir ce qu'elle est. Tout ce qu'on peut dire de Anne, je crois que nous pouvons aussi le prendre pour nous, que nous sommes invités à le vivre et à le manifester dans notre vie de chrétien du XXIe siècle. Oui, appelé à manifester la réalité de la vie de Dieu dans nos vies. Seigneur, fais-nous la grâce, donne-nous la force, donne-nous le courage d'être ce que nous sommes. Amen.
Alors, on est tous rassemblés, mais d'origines diverses. Il y a peut-être des gens parmi nous qui sont des juifs ou anciens juifs. Alors, c'est les bons, ils font partie du peuple de Dieu. Il y en a qui sont peut-être des ex-darbistes. Il y a des vrais évangéliques. Il y a des vaudois évangéliques. Et on sait que les vaudois, c'est les meilleurs, il n'y en a point comme eux. Il y en a qui sont d'origine catholique, d'autres d'origine protestante ou qui sont toujours protestants. C'est parfait, c'est des bonnes églises. Il y en a qui sont d'origine bouddhiste, musulmane ou qui sont de nulle part. Ça existe aussi. Et pourtant, on est tous ici miraculeusement pour célébrer le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Dans Romains 11, il est précisé que nous avons été greffés sur l'olivier original. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne mérite rien. On a été greffés, on fait partie du peuple de Dieu, mais parce qu'on a été invité à faire partie de ce peuple. On bénéficie de la sève du Seigneur, on est nourri, on vit par lui et pour lui. Alors, il faut bien retenir tout ça quand on va partager le pain et le vin tout à l'heure. Qu'effectivement, on n'a aucun mérite d'être ici, aucun mérite de partager le pain et le vin. Tout a été offert en Christ. Il est le centre de nos vies, l'ancre qui nous accroche dans une baie, la voile qui nous permet d'avancer dans la vie. Voilà, nous allons lire l'institution.
Le Seigneur Jésus, pendant le repas qu'il prenait avec ses disciples dans la nuit où il fut livré, prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, il est livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et rendit grâce. Il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir partager à ce repas que tu nous offres. Merci parce que c'est toi-même qui es présent. Alors, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, qui habite en nous, que tu fais reposer sur nous, nous puissions discerner que c'est toi-même qui t'offres à nous. Que ton pain, que ce pain que nous partageons, que ce vin que nous allons boire, c'est ton corps et ton sang que tu as répandu afin que nous puissions vivre par toi. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction que nous élevons est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, nous vous invitons à partager le pain et le vin. Donc, au niveau de ces plateaux, au centre, il y a du vin sans alcool, du jus de raisin. Autour, c'est du vin. Et ceux qui désirent la coupe, lèvent la main et on vous la passera. Est-ce que je pourrais avoir deux personnes pour nous donner un coup de main? Oui. Merci. Seigneur, merci pour le repas que tu nous donnes. Merci parce que tu nourris nos vies de ta présence. Merci parce que tu es là tous les jours, dans les bons et les mauvais moments. Mais tu es là, tu accompagnes, comme tu as accompagné Anne toute sa vie. Amen. Nous allons passer à l'offrande. Alors, on vous invite à l'offrande et en même temps, nous chanterons le 794, « Sois mon ancre et ma voile ». Prierons. Mais Seigneur, nous te confions tout cet argent qui a été récolté, que ce soit utile pour ton service, que tu diriges aussi les deux responsables des communautés qui doivent gérer cet argent et que cela fasse vraiment fructifier ton royaume pour que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous passerons au temps d'annonce. Alors, pour la communauté, j'ai passé pour une communauté protestante. Michel, tu veux annoncer quelque chose ?
Alors, c'est bientôt la reprise. À partir du 1er septembre, nous le serons chacun de notre côté. Alors, contrairement à ce qui est annoncé dans le bulletin, il y aura un culte méditation le 1er septembre au temple du CEPOM. Au départ, il était prévu le 15 septembre, enfin, il est annoncé le 15 septembre. La personne qui a fait le bulletin a pris la version précédente à la dernière pour faire ça. Donc, c'est effectivement le 1er septembre, nous aurons un culte méditation au CEPOM. Autrement, je ne crois pas qu'on ait autre chose. Voilà.
Alors pour la communauté de Mérin, donc dimanche prochain, culte en commun, le dernier au CEPOM. Et le 1er septembre, ce sera le culte de reprise. Et comme c'est le début du mois, il y aura un repas communautaire, un repas de partage, où bien sûr tout le monde est invité. Alors, je vais passer la parole à Paul Robert.
Bonjour. Alors c'est pour la chapelle à côté. Vous savez qu'on est en train de la restaurer. Ça avance très fort. Et les menuiseries sont posées. La peinture est en train de se terminer. Le plancher va être fait. Les radiateurs posés. Enfin bref. Mais nous avons besoin de vous. Et l'équipe, on va préparer bientôt une petite annonce qu'on fera paraître ici et paraître dans Actumérin, je crois. Et vous pourrez répondre pour donner des coups de main, notamment pour des questions de grand nettoyage final, pour des questions de démonter les plexis sur les fenêtres, de nettoyer celles-ci et des tas d'autres petites choses qui sont à faire et que nous ne pouvons pas, nous, tout faire, l'équipe de préparation pour cela. Par contre, il y a un travail qui est à faire relativement pressant, c'est que les portes sont posées, enfin, les portes arrière, et il y a la dernière porte qui est à peindre, et nous cherchons une ou deux personnes qui seraient capables de, et qui voudraient bien, servir le Seigneur au travers du pinceau et peindre cette porte en brun d'un côté, en blanc de l'autre. Et si une ou deux personnes se sont appelées pour ça, merci de venir me trouver à la fin du culte afin qu'on puisse s'organiser. Je vous remercie déjà et d'avance pour votre service et pour la bonne réponse et bon accueil à ces prochaines annonces. Amen. Merci. Amen, on pourrait le dire aussi.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir accompagnés pendant ce moment de culte. Seigneur, faites-nous la grâce d'être ce que nous sommes, de devenir ce que nous sommes. Nous en avons besoin, nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage. Que le Seigneur fasse rayonner sur nous son visage et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son regard et nous donne la paix. Amen. Bon dimanche.